Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pas de celui qui porte la bonne nouvelle, qui proclame la paix, de celui qui porte l'heureuse nouvelle, qui proclame le salut, qui dit à Sion, ton Dieu est roi.
Ils ont tous guetté le jour. Ils ont tous vécu la grande attente, et leurs yeux n'ont vu que lueur, comme une aube fragile qu'estomperait la brume. Leurs oreilles ont entendu des paroles, tonnerres ou murmures. Ils n'avaient pour aller que ce qu'on nomme la foi, ferme assurance des choses qu'on espère, démonstration de celles qu'on ne voit pas encore.
Aujourd'hui, c'est Noël. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix aux hommes qui l'aiment.
Quand les montagnes s'en iraient, quand les collines vacilleraient, ma fidélité envers toi ne s'en ira pas, et mon alliance de paix ne vacillera pas, dit le Seigneur qui a compassion de toi.
Bien avant que ne se lève le soleil, bien avant que d'être visités, ils ont reçu des vérités pour aider un monde qui demandait à vivre, lassé qu'il était de ne rien voir venir. Quelques-uns, tels Abraham, ont deviné le jour. D'autres ont marché en pleine nuit, mais leur nom, comme autant d'étoiles, ont illuminé le ciel au fond des cœurs croyants.
Aujourd'hui, c'est Noël. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix aux hommes qui l'aiment.
Oh.
paix à ce paix, paix à celui qui est loin, comme à celui qui est proche, dit le Seigneur, je les guérirai.
Enfin, lorsque les temps furent accomplis, vint le plus grand parmi eux, l'homme du seuil, la voix qui crie, son nom était Jean. Ainsi se fit la longue cordée jusqu'à l'inaccessible. Et lorsque ne restèrent plus que des pauvres, il suffit d'une porte au creux d'un bourg et d'un peu de clarté pour que le roi de gloire, au milieu d'eux, fasse son entrée, fils de l'homme, Dieu né de Dieu.
Aujourd'hui, c'est Noël. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix aux hommes qu'il aime. Debout donc, à la taille, la vérité pour ceinturon, avec la justice pour cuirasse et comme chaussure aux pieds, l'élan pour annoncer l'évangile de la paix.
Enfants de Dieu, louez le Seigneur. Vous qui l'aimez, réjouissez-vous. Vous qui l'aimez, la paix soit avec vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Peuple fidèle, rassemblé ici, dans ce soir de Noël, confessons ensemble notre foi.
Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de tous les êtres visibles et invisibles. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, engendré du Père avant tous les siècles, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, un seul être avec le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu des cieux, il s'est incarné du Saint-Esprit et de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il a souffert la passion, il a été mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Il est monté aux cieux, il siège à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Du Père, il tient son origine. Avec le Père, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois à l'Église une et sainte, à sa catholicité et à son apostolicité. Je confesse un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen.
Chapitre 1er, les versets 1 à 16. Livre des origines de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra Phares et Zara de Tamar. Phares engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Abinadab. Abinadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon engendra Boz de Rahab. Boz engendra Jobed de Ruth. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David.
Thank you. David engendra Salomon, de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Zéconias et ses frères. Ce fut alors la déportation à Babylone.
Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Zalassiel. Zalassiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abioud. Abioud engendra Éliakim. Éliakim engendra Azor. Azor engendra Sadoc. Sadoc engendra Akim. Akim engendra Éliud. Éliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, que l'on appelle Christ.
Lecture de la prophétie au livre du prophète Ésaïe, chapitre 9. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as fait abonder leur allégresse, tu as fait jaillir leur joie. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on jubile au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton à son épaule, le gourdin de son chef de corvée, tu les as brisés comme au jour de Madian. Tout brodequin dont le piétinement ébranle le sol et tout manteau roulé dans le sang deviennent bons à brûler, proie du feu. car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La souveraineté est sur ses épaules. On proclame son nom, merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Il y aura une souveraineté étendue et une paix sans fin pour le trône de David et pour sa royauté, qui l'affermira et établira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. L'ardeur du Seigneur, le Tout-Puissant, fera cela.
Proclamation de l'Évangile de Noël dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 2, les versets 1 à 20. En ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de recenser tous les habitants de l'Empire romain. Ce recensement, le premier, eut lieu alors que Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire enregistrer, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi parti de Nazareth, une ville de Galilée, pour se rendre en Judée, à Bethléem, là où était né le roi David. En effet, il était lui-même descendant de David. Il alla s'y faire enregistrer avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle destinée aux voyageurs. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur. Mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup le peuple. » Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un Sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera connaître. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé dans des langes et couché dans une mangeoire. Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe très nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment ». Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres : « Allons donc jusqu'à Bethléem. Il faut que nous voyions ce qui est arrivé ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le nouveau-né couchés dans la mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce que l'ange leur avait dit au sujet de ce petit enfant. Toutes les personnes qui entendirent les bergers furent étonnées de ce qu'il leur disait. Quant à Marie, elle gardait tout cela dans sa mémoire et elle y réfléchissait profondément. Puis, les bergers prirent le chemin du retour. Ils chantaient la gloire de Dieu et le louaient pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, car tout s'était passé comme l'ange le leur avait annoncé. Ça fait 55 ans que je fête Noël et 30 ans que je célèbre comme pasteur, comme officiant. Alors j'avoue que je pensais que si le récit de la naissance dans l'évangile selon Luc au chapitre 2 me réserver encore des surprises, ça serait dans une nuance très fine, très obscure du grec, qu'un théologien, qu'un exégète me ferait découvrir. J'ai pas encore dit ma bêtise. Et en fait, pour la première fois, je remarque que Luc offre dans ce passage un indice fort que Dieu est bien masculin. Dieu envoie ses messagers, ses anges, et même toute son armée, annoncer à des bergers que son fils est né. On est d'accord, c'est la deuxième partie du texte. Mais Dieu n'est pas fichu de penser à envoyer ces mêmes anges réserver une salle pour que la mère de son fils puisse accoucher dans de bonnes conditions. Si ça, c'est pas penser et agir de manière toute masculine. D'ailleurs, je vous avais prévenu. D'ailleurs, si vous me permettez cette parenthèse de piété mariale, Marie, elle, au moment de la naissance, elle fait tout. Elle mit au monde un fils, son premier-né, elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire. Le rôle de Joseph, c'est d'amener sa fiancée enceinte jusqu'aux yeux dans un périple de plusieurs jours. Et en plus d'être une organisatrice, Marie fait de la théologie. Elle gardait tout cela dans sa mémoire et elle y réfléchissait profondément. Marie, ce n'est pas seulement une figure, la première figure de témoin, Marie, c'est un modèle pastoral. Et vraiment le modèle, l'idéal. Elle organise tout et en plus elle fait de la théologie. Ou elle fait de la théologie et en plus elle organise tout. Quand on lit Luc, la surprise ce n'est pas que des églises acceptent des femmes au ministère pastoral. La surprise c'est que les églises acceptent des hommes à ce ministère. Plus sérieusement, un peu. Je ne crois pas que ce passage prouve la masculinité de Dieu, parce que je ne crois pas que Luc témoigne d'un Dieu qui ne sait pas s'organiser ou qui n'a pas le sens des priorités. Luc nous parle d'un Dieu qui fait des choix, qui décide où il convient de rejoindre l'humanité, qui décide que l'humanité, il va la rejoindre avec celles et ceux qui sont loin de chez eux, qui sont en déplacement, qui sont loin du pays où ils habitent, et pas dans les meilleures conditions possibles. Il décide que l'humanité, il la rejoint avec celles et ceux qui sont jetés sur les routes par la soif de puissance des dirigeants. Quand on fait un recensement, à l'époque, c'est pour compter sa force ou pour lever un impôt. Souvent les deux, ce n'est pas incompatible. Dieu rejoint l'humanité dans la paille d'une mangeoire, c'est-à-dire avec celles et ceux pour qui il n'y a pas de place dans les conforts de nos sociétés. Dieu rejoint l'humanité au plus bas, au plus petit, au plus fragile, et il le fait volontairement parce qu'il aurait eu les moyens largement de le faire autrement. C'est ça que raconte l'évangile selon Luc. Vous voyez que des fois, ce n'est pas dans les nuances du grec qu'il faut le chercher, c'est juste en disant « mais c'est bizarre finalement ». Et Dieu choisit aussi, dans ce même texte, ses témoins. Je vous disais que Marie était un modèle pastoral, je ne plaisantais qu'à moitié. Dans ce récit, Marie et les bergers, donc les pasteurs, ont bien la même fonction. Ce sont les témoins que Dieu a choisis. Je pense même que ce sont les figures des témoins dont Luc parle dans son prologue, quand il écrit « Ceux qui les ont vus dès le commencement, les événements qui se sont produits parmi nous, ceux qui les ont vus dès le commencement et qui ont été chargés d'annoncer la parole de Dieu. » Il pense à des gens comme Marie, comme les bergers. Et comme témoin, ils présentent des différences sur lesquelles je vais revenir, mais ils ont aussi deux traits communs. Le premier, c'est que Marie, comme les bergers, ont vu des anges. C'est-à-dire qu'une révélation leur a été faite. Ce dont ils témoignent, ce n'est pas le fruit de leur réflexion, ce n'est pas de leur conviction, ce n'est pas de leur foi profonde. Ce dont ils témoignent, c'est de quelque chose qui leur a été transmis, qui leur a été donné, qui leur a été délivré. C'est d'une parole qui leur vient d'ailleurs. Ils ne témoignent pas d'une conviction personnelle, ils témoignent d'une parole qui leur a été transmise. Le deuxième point commun, c'est que quand même, comme témoin, Dieu aurait pu trouver mieux. Il aurait pu trouver mieux, plus crédible, qu'une femme enceinte avant d'être mariée. C'était mal vu à l'époque. Il aurait pu trouver plus crédible que des bergers. Les bergers, à l'époque, ils sont à peine instruits, ils sont au bas de l'échelle sociale et même de l'échelle religieuse parce qu'ils s'occupent de leurs troupeaux, parce qu'ils s'occupent de leurs bêtes et qu'ils ne peuvent pas s'acquitter des devoirs religieux. Et en plus, ce sont des bergers si peu dignes de confiance qu'ils n'hésitent pas à abandonner les troupeaux qui leur sont confiés à la première apparition divine. Et on sait quelle notion de garde de troupeaux en gardera l'enfant Jésus. Les choix de Dieu, nous dit Luc, ne sont pas nos choix, même en matière de communication. En tout cas, Dieu fait fi de l'argument d'autorité. Il prend les témoins les moins crédibles possibles au regard de l'époque. Ça, c'est les deux points communs entre Marie et les bergers. Bénéficiaires d'une parole qui leur est transmise, qui leur est annoncée, et pas forcément des témoins crédibles. Et pourtant, Marie et les bergers offrent deux styles de témoignages très différents. Les bergers sont dans l'immédiateté de ce qu'ils ont vu. Ils arrivent, ils voient l'enfant, ils racontent ce qui vient de se passer pour eux. Et puis, quand ils rentrent chez eux, quand ils retournent à leurs moutons, ils louent Dieu. Marie, elle garde ce qu'elle voit et entend pour elle. Elle le médite, elle le réfléchit, elle le construit. Et on va la voir faire ça pendant toute l'enfance, l'enfance de Jésus. Elle conserve ces éléments au fond de son cœur. Des traditions font de Marie la source privilégiée de Luc. Je n'irai pas juste sur ce terrain qui me semble assez peu crédible, même si les images du 19e représentant Luc interviewant Marie, il y a toujours un certain charme, mais j'y crois pas beaucoup. Mais Luc fait assurément de Marie un archétype du témoin, de celles et ceux auprès de qui il s'est renseigné, des gens qui ont gardé ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient entendu, qui ont construit un récit à partir de cela, qui ont fait de la théologie. Peut-être même que Luc se représente à travers Marie. Elle a finalement la même démarche que lui. Elle accumule les choses avant de donner son témoignage. Là, je m'aventure un peu. D'ailleurs, ça fait un nouveau point commun, mais avec une différence. Marie va elle aussi louer Dieu. Pas dans ce texte-là, mais juste avant, avec le Magnificat. Mais sa louange n'est pas tout à fait la même que celle des bergers. Enfin, on ne sait pas quelle est celle des bergers. La louange de Marie telle qu'elle est racontée par Luc, c'est le Magnificat. C'est une louange construite. Mais ce n'est pas une louange pour elle, c'est une louange pour le monde entier. C'est une annonce de la manière dont l'évangile de Jésus-Christ va contester le monde dans lequel Jésus va vivre. Marie, dans sa louange, est une révolutionnaire. Une révolutionnaire instruite, parce qu'elle est baignée du Premier Testament, mais elle choisit les images les plus contestataires possibles. Deux figures de témoins, donc. Le témoin immédiat, qui raconte ce qu'il a vu, et le témoin qui accumule, qui cherche, qui construit un récit, un discours sur Dieu, une théologie. Aujourd'hui, dans nos églises, nous avons souvent tendance à opposer ces deux témoignages. Il y a les enthousiastes, et puis il y a les théologiens, les gens sérieux. Luc, lui, il les associe. Il dit, ces deux formes de témoignages sont une manière de porter une bonne nouvelle. Il vous est né un sauveur. Mes frères, mes sœurs, quelle que soit votre manière de recevoir cette nouvelle, quelle que soit votre manière d'en témoigner et de fêter Noël, que cette nouvelle vous accompagne et vous fasse vivre. Et soyez certains que cette nouvelle, si vous l'avez reçue, c'est pour en être témoin à votre tour. Deux points communs. Avoir reçu une nouvelle et se dire que comme témoin, on n'est pas très crédible. Et bien si vous dites, oula, moi le témoignage, c'est pas pour moi, je ne saurais pas faire, je ne sais pas faire, ben vous êtes comme Marie et les bergers. Vous êtes les premiers témoins de cette naissance de Dieu parmi les hommes. Vous êtes celles et ceux à qui Dieu charge d'annoncer gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour celles et ceux qui l'aiment. Amen.
Dans la paix, prions encore le Seigneur. Ton évangile de paix, Seigneur, Emmanuel, Dieu avec nous.
Sur tous les peuples déchirés et meurtris par la guerre, sur tous ceux qu'un régime autoritaire aliène et opprime,
surtout ceux dont l'idéologie de gouvernement exclut, divise, sépare. Sur tous les peuples qui vivent dans les régions où les perturbations climatiques sont d'une violence destructrice, impitoyable. Sur tous ceux qu'une économie exsangue condamne à une pauvreté aux limites de la dignité humaine. Évangile de paix, Seigneur, Emmanuel, Dieu avec nous. Sur tous ceux et celles que la crise économique et sociale fait entrer de façon passagère ou durable dans la précarité et la vulnérabilité. Sur tous ceux qui s'inquiètent du lendemain, sur eux-mêmes et pour leurs proches. Sur tous ceux dont l'inquiétude devient angoisse et désespoir. Sur tous ceux et celles qui, dans cette nuit, dormiront dans nos rues et sous nos ponts. De paix, Seigneur Emmanuel, Dieu avec nous, sur tous ceux et celles qui luttent avec la maladie, sur tous ceux et celles qui doivent accepter jour après jour le handicap qui est le leur, sur tous ceux et celles qui ont peur de vivre, se découragent et ne voient pas d'avenir, sur tout ce qui fait notre quotidien, celui de nos proches, celui de celles et ceux que nous aimons. Évangile de paix, Seigneur Emmanuel, Dieu avec nous, sur l'Église dans sa beauté et sa misère, dans ce qui nous réjouit et ce qui nous désole, pour la vie de nos paroisses et de nos communautés, sur le témoignage de chacun, de chacune, de celles et ceux qui se réclament de ton nom.
Thank you.
Seigneur, Jésus, prince de paix, Emmanuel, Dieu avec nous, nous avons confiance en toi. Amen. Amen.
Seigneur soit avec vous.
Et avec ton esprit.
Élevons notre cœur.
Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu.
Cela est juste et bon.
C'est le cœur en fait que nous te rendons grâce, Dieu à jamais fidèle. Car tu n'as pas voulu demeurer loin de nous et tu as désiré que ton amour pour les humains prenne visage d'homme en Jésus, ton Fils. Il nous a appris ton nom, nous révélant ta tendresse, nous manifestant ton amour et nous apprenant à vivre une vie offerte. Nous te louons, toi, l'ami des humains. En ce temps, le Dieu inaccessible se fait proche. Le Dieu unique devient compagnon et frère en Jésus, né de Marie. Au chant des anges et des bergers, laisse-nous joindre nos voix pour acclamer ta fidélité et tes promesses.
Oh,
Que toute créature fasse silence devant le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, Dieu de l'univers et Père de tous les vivants. Tu es saint, toi le souffle divin, créateur de toute vie. Tu es saint, toi le Christ de Dieu, qui, dans la nuit où tu fus livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, c'est mon corps donné pour vous. » Oui, tu es saint, toi le Christ, qui à la fin du dernier repas avec tes disciples pris une coupe en disant « Prenez, buvez-en tous, c'est mon sang. » Le sang de la nouvelle alliance versé pour le pardon des péchés. Oui, tu es saint, toi le Christ, qui nous a demandé de répéter ces gestes à travers les millénaires pour rafraîchir en nous la mémoire de ton amour. Nous célébrons celui qui est la vie, la lumière des hommes et que les ténèbres n'ont pas reçu. Le monde fut par lui et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre bien et les siens ne l'ont pas accueilli. Il a été fait chair, il a habité parmi nous, il frappe à notre porte. Vienne ton esprit sur nous, vienne ton esprit sur ce pain et sur ce vin. Vienne ton esprit et que ton Fils soit maintenant et ici, ton pardon et ta paix, notre vérité et notre joie. Hâte le jour où ce monde le reconnaîtra et recevra de toi sa plénitude. Dans cette espérance, Seigneur, accueille encore notre prière.
Yeah.
quitter Marie. Un ange a parlé à Joseph. Des anges ont réveillé les bergers. Une étoile a mis en route les savants d'Orient. Ce soir, c'est nous que Dieu visite. C'est à nous que Dieu parle. C'est lui que nous allons recevoir par le pain et par le vin. Lui aussi que nous allons emporter au creux de nos existences. Heureux celles et ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau.
Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Formant un cercle le long du banc.
Vous toutes et vous tous qui avez été conviés à la table du Seigneur, allez dans sa paix.
Amen.
Sois béni, Père de tendresse, car la nuit de Noël a vu resplendir la lumière éternelle au cœur des ténèbres du monde. Sois béni, Esprit d'amour, par qui le Verbe s'est fait chair. Sois béni, Jésus, notre frère, en qui s'est approché le royaume, où nous nous réjouirons en ta présence, pour les siècles des siècles.
Amen.
Amen.
De Dieu pour vous guider, la paix de Dieu en plénitude. Dieu nous a visités. Il prononcera notre nom dans l'amour au jour de son royaume. Il nous bénit, celui qui est pour nous le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Amen.
Jésus, il est chair, si c'est haut.
joyeux Noël à vous tous. On sera ravis de prolonger un peu cette célébration en allant un peu plus loin que le parvis cette année, jusque dans l'hôtellerie où vous attend une petite agape modeste mais joyeuse. Voilà. Gloria, Gloria.